Nous allons poursuivre ce moment d'adoration par la lecture de la parole de Dieu telle que nous la découvrons dans le chapitre 3 d'Exode. Exode 3, les versets 1 à 16. Exode 3, 1 à 16, puis nous poursuivons au chapitre 4 et les versets 1 à 9. D'abord, chapitre 3, 1 à 16. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éhiciens, les Amoréens, les Phéréziens, et les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appela « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. » Chapitre 4, 1 à 9. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans la main ?» Dans ta main, il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle redevient comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Puisse l'Éternel bénir la lecture de sa parole et son influence dans notre vie. Amen.
Merci à Samuel pour cette lecture. Un petit peu plus longue que d'habitude. Mais il est bon de pouvoir se remémorer comme cela certains textes que nous n'avons peut-être, en tout cas c'était mon cas, pas lu depuis quelque temps. Ce texte est connu de tous, pour ceux d'un certain âge, et peut-être même les plus jeunes, qui sait, nous avons en mémoire le fameux film « Les Dix Commandements » avec Charlton Heston comme acteur, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, je crois, qui met en scène Moïse, l'Exode. C'est donc un moment important de l'histoire humaine, et surtout pour nous aujourd'hui, connu. Le connaissons-nous véritablement? Je crois que nous regardons souvent ces textes sous l'angle du merveilleux, arrêtant nos yeux sur le miraculeux, mais ne regardons pas forcément avec un œil un peu plus attentif, peut-être expert, qui nous permettrait d'extraire de ce genre de texte, pour reprendre une expression rabelaisienne, leur substantifique moelle. Et c'est ce que je voudrais, d'où la lecture, un peu longue, pardon Samuel, de ce matin. C'est ce que je voudrais voir pendant quelques instants, court malheureusement, avec vous. D'abord quelques remarques, et particulièrement quelques ponts, puisque ce texte entretient un rapport particulier avec certains autres du Nouveau Testament. En effet, dans le Nouveau Testament, on cite ce texte assez souvent. J'en veux pour preuve la fameuse discussion entre Moïse, Élie et Jésus pendant la Transfiguration. Les mots qui sont utilisés ici nous permettent de comprendre qu'on parle d'une exode, ou d'un exode. Non pas celui qui dans l'histoire s'est déjà réalisé, mais celui que le Christ, par la croix et la résurrection, va réaliser. Vous remarquerez que la présence de Moïse n'est pas anodine, et elle nous ramène elle aussi à ce moment extraordinaire qu'il avait vécu. Et vous le verrez dans un instant, en compagnie de la même personne. On pourrait aussi citer Luc 20, verset 37, qui cite l'épisode du buisson ardent, « Que les morts ressuscitent, dira Jésus. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et enfin, un argument intéressant, auquel nous ne pensons pas forcément, c'est qu'il semblerait qu'il y ait entre la prière parfaite indiquée par le Christ comme modèle de prière à ses disciples et le récit du buisson ardent une correspondance étroite. Il y aurait entre le mot d'ordre de Jésus, Matthieu 28, verset 18 et suivant, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit » et le récit du buisson ardent, une correspondance étroite. Par exemple, au mot d'ordre donné aux disciples prosternés ou hésitants, « Allez », eh bien nous avons le mot de Dieu dans le buisson à Moïse, « Va ». À l'ordre de mission des disciples, « Faites de toutes les nations des disciples » correspond la mission confiée à Moïse. « Tu feras sortir d'Égypte », clairement indiqué, exprimé dans le texte, écrit plus exactement. En parallèle à un Moïse hésitant, peu disposé à aller et qui tente de se dérober à la mission qui lui est confiée en disant « Qui suis-je ?» Eh bien, nous avons chez Matthieu un Jésus qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et face à un Moïse effrayé devant la tâche qui est la sienne, nous avons en correspondance missionnaire évangélique un Jésus qui dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Bref, vous avez deux récits qui semblent entretenir entre eux d'intéressantes correspondances. Voilà comment indiquer qu'il existe un rapport étroit entre le récit du buisson et la théologie du Nouveau Testament. Ce qui nous permet, je le crois, tout le temps que je passe ce matin à introduire ainsi ce texte, de souligner l'importance de ce récit et le besoin pour nous de nous y replonger. Alors, plongeons-nous dans ce récit. Ce récit laisse apparaître 7 signes. 7 signes. Le signe des sandales ôtées sur la Terre Sainte. Le signe de l'eau du Nil versée en sang sur la terre d'Égypte. Le signe du buisson d'épines. Le signe de la gestuelle de la main lépreuse purifiée. Le signe du buisson ardent. Le signe du serpent maîtrisé par la queue. Le signe du culte à l'Éternel sur la terre sainte du Sinaï. Ça, c'est l'ordre chronologique dans le texte. La suite avec laquelle les signes sont indiqués. Mais ce que je voudrais relever, c'est une emphase toute particulière indiquée par Moïse, si tant est qu'il soit le rédacteur, à nous les lecteurs. Pour dire les choses plus simplement, quand on prend l'ensemble de ces signes, il en est un qui est plus important que tous les autres. C'est le dernier indiqué dans la liste que je viens de vous proposer. Le signe du culte à l'Éternel sur la terre sainte du Sinaï. C'est un peu comme si une pyramide se créait avec pour sommet ce rendez-vous, un culte avec Dieu, son peuple étant enfin prêt pour le rencontrer. Or, ce que je vous proposerai ce matin, c'est très simple. Et c'est en même temps très adventiste. Comment retirer dans le récit du buisson, par l'analyse des signes, la pédagogie, le processus, la dynamique spirituelle qui nous permettra d'atteindre cet objectif, nous l'espérons tous, proche devant nous. Ôter ses sandales de ses pieds. Vous savez, rien dans la Bible n'est écrit au hasard. Tout a un sens. Tout a une importance. Même le fait d'ôter ses sandales. Les 2 sens que nous pouvons donner à ce signe-là sont les suivants. Le premier, c'est un acte d'humilité et de reconnaissance. Dans l'Antiquité orientale, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, si vous allez chez l'habitant, vous ôtez vos souliers. Qu'est-ce que vous voulez indiquer ? Que vous respectez le lieu où vous allez. Vous respectez le propriétaire à qui il appartient, d'une part. Mais vous indiquez aussi, et c'est là, je le crois, ce qui est intéressant pour nous ce matin, un acte d'allégeance, un désir d'allégeance. Vous vous soumettez en enlevant vos souliers à celui chez qui vous allez. Et le temps du repas, de la nuit, que sais-je, où vous serez dans cette maison, vous respecterez les lois, les us, les coutumes de cette maison, vous vous soumettrez à l'autorité du maître de la maison. Voilà peut-être comment commencer à cheminer en direction de cette grande rencontre culturelle. Le deuxième sens que nous pouvons donner au fait d'ôter ses péchés dans l'Antiquité orientale est le suivant. Il s'agirait d'une donation. Ôter ses chaussures, plus exactement donner sa chaussure à l'époque du Christ, c'était attester une vente. C'était indiqué qu'une chose que nous possédions, nous la donnions à un autre qui en devenait propriétaire. Quelque part, nous nous humilions. Nous laissons, nous nous vidons. Je pense à un texte du Nouveau Testament au moment où je dis cela. Je crois qu'il y a là des renseignements intéressants, pour ne pas dire enseignements. Le chemin du salut, puisque c'est de cela dont nous parlons, qu'il soit individuel ou collectif, peu importe, les deux étant étroitement liés d'ailleurs. Et d'abord, un chemin de renoncement, indiqué par le fait d'ôter ses souliers. Qui ôte ses souliers ici? C'est Moïse. Qu'a fait Moïse 40 années auparavant? Il a voulu, lui, libérer le peuple. Et cette histoire que nous lisons souvent rapidement et qui nous laisse à entendre qu'il aurait tué dans la précipitation un soldat égyptien ne doit pas être lue ainsi. Tout était prémédité. En tuant le soldat égyptien, il espérait gagner la faveur du peuple et il espérait ainsi libérer à la force de son bras le peuple d'Israël. Il aura fallu 40 années pour enfin commencer à arpenter le chemin du salut. Ôte tes souliers. Qu'il n'y ait plus rien qui t'appartienne. Tout doit m'appartenir. Et quand t'es chez moi, tu respectes mes lois, mes règles, mes conseils. Je crois qu'il y a là un enseignement important, une première marche sur l'escalier qui monte aux cieux, et je ne pense pas à la chanson de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Ce premier signe doit être mis en relation avec un des derniers signes, puisque nous sommes ici non pas dans une construction linéaire, mais pyramidale. Et nous passons au signe de l'eau, l'eau du Nil qui est transformée en sang. Intéressant. Le Seigneur est extraordinaire. Il nous dit d'abord un acte d'humilité. Ôte tes souliers. Et nous avons dit à quoi cela correspondait. Mais de suite, il nous dit, t'inquiète pas. Moi, j'ai la puissance. Moi, j'ai le pouvoir. Moi, j'ai la grâce de pouvoir faire ce que toi, tu ne pourras faire. Et nous sommes ici dans le signe de l'eau transformée en sang. De quelle eau parlons-nous ? L'eau de quel fleuve? Du Nil. Je vous pose une question. Avez-vous le sentiment que l'Égypte, la civilisation égyptienne, existerait, que nous en parlerions, si le Nil n'avait été? Ce qui fait de l'Égypte l'Égypte, c'est le Nil. D'ailleurs, Hérodote, un historiographe de l'Antiquité, philosophe également, ne s'y était pas trompé. La bénédiction de l'Égypte, c'est le Nil. En effet, regardez sur Arte ou certaines émissions culturelles les process encore actuels d'irrigation de ces terres arides à la base. L'eau, c'est la vie. Et l'eau du Nil, c'était la vie de l'Égypte. Que veut dire Dieu ? Cette source de bénédiction pour ce pays, je la rendrai malédiction. Cette eau, je la transformerai en sang. Tout ce qui a fait la richesse, la grandeur, le pouvoir de ce pays ne sera rien si moi, je m'occupe de vous. D'autre part, le côté opposé, le bon côté de la chose. N'y aurait-il pas là une préfiguration de ce que nous célébrons une fois par trimestre dans nos églises? La Sainte-Seine. Car cette eau transformée en sang nous rappelle le sacrifice du Christ. Et voilà comment les bénédictions du monde sont en fait des malédictions. Lorsque tout est pesé, mesuré à l'aune du Christ, ce qui a de la valeur dans le monde, ce qui a de l'importance dans le monde, ce qui est considéré richesse dans le monde, ce qui nous intéresserait dans le monde, lorsque le Christ intervient, lorsque le sang du Christ intervient, tombe. D'autres idéaux, d'autres vertus, d'autres mobiles, une autre vie. Peut-être aussi dans ce texte, dans ce signe de l'eau transformée en sang. Non seulement Dieu veut nous dire « j'ai le pouvoir de dompter même les plus grands parmi les nations, l'Égypte dont on parle encore. Et ce pouvoir, je vais le manifester comment ? Par mon Fils, qui un jour s'incarnera dans l'humanité. » Après le renoncement, il nous faut regarder à Dieu. Après avoir ôté ses sandales, ses souliers, il nous faut regarder à Dieu qui est capable de nous permettre de tout surmonter. Rien sur ce chemin qui monte vers les cieux ne pourra nous empêcher, nous arrêter, si du moins nous savons regarder à celui qui est capable de transformer les richesses de ce monde en malédiction. Si du moins nous sommes capables de regarder celui indiqué par l'eau transformée en sang, le Christ Jésus. C'est là un signe important. D'ailleurs, vous remarquerez que quand les anciens, c'est indiqué dans le texte, vous y reviendrez, vérifient, observent ce signe de l'eau transformée en sang, ils acceptent que Moïse, maintenant un inconnu, 40 années qu'il a disparu, vieillissant de surplus, prenne les rênes de ce peuple. Nous devons toujours associer à nos actes d'humilité la puissance de Dieu. C'est aussi pour Dieu un moyen de nous réconforter et de nous aider ainsi à avancer sur le chemin qui nous conduit à ce rendez-vous merveilleux. Le troisième signe, le signe du buisson d'épines. Vous êtes-vous déjà posé la question de l'arbre dont il est question avec le récit du buisson ? Selon vous, c'est quel type d'arbre ? Un sol pleureur ? Ce serait quoi ? La vérité sort de la bouche de Claudine. Avec des épines. C'est un arbre qui appartient à la famille des ronciers. Ça peut atteindre 4 mètres de haut. Et vous imaginez les branches. C'est pas un petit buisson, là, hein? Je ne sais pas si certains regardaient la série « Les mystères de l'Ouest ». Dans le générique, vous aviez toujours ces espèces de petits buissons là, qu'on mettrait dans nos foyers de cheminée pour faire prendre le feu. Ce n'est pas ça. Mais c'est surtout plein d'épines. Et puis, ce n'est pas beau. C'est quand même curieux que Dieu décide de se manifester dans ce type d'arbre. J'aurais eu à faire ce que Dieu a fait ce jour-là, moi j'aurais pris, je ne sais pas, un platane dans le sud de la France, robuste, peut-être impressionnant, ou un sol pleureur, ou un cèdre du Liban, mais pas ça. Et vous comprenez probablement, ce Dieu, si je le crois, ce que ce signe nous indique, n'est pas que le Dieu qui nous demande de nous dépouiller et qui va immédiatement après nous aider à tout transcender, à tout dépasser, parce qu'il nous fait comprendre qu'il est puissant, il va activer pour nous sa puissance. N'oublions pas notre objectif, parcourir jusqu'au bout le chemin qui monte vers le grand rendez-vous. Ce Dieu, il veut nous dire qu'il va se mouiller, il va mouiller sa chemise, il va s'impliquer, il va devenir ce que nous sommes, ce que les tribulations de l'existence, les maladies, les morts, les tracas, quels qu'ils soient, nous livrent quotidiennement, malheureusement. Il y a dans le choix de cet arbre vil l'indication de cette association, adoption des fardeaux, des contingences, des limites de l'humanité par Dieu lui-même. Pourquoi ? Parce que l'humilité, la grandeur ou la puissance ne suffisent pas. Il faut aussi associer ce que j'appellerais l'association, la participation. Prenons un exemple. J'imagine que certains ont déjà été hospitalisés. Et j'imagine que certains ont peut-être subi des interventions qui ont nécessité un certain lot de douleurs. Vous savez, le moment le plus difficile quand vous faites opérer, c'est le moment du réveil. Parce que généralement, on ne vous donne pas les calmants tant que vous n'êtes pas réveillé. Et parfois, vous criez à ce que les calmants vous soient donnés. Et puis même quand on vous soigne ainsi, lorsque vous remontez dans la chambre, parce que juste là vous êtes en soins intensifs ou soins, Micheline pourrait m'aider, salle de réveil, c'est encore une fois Claudine. Lorsque vous vous retrouvez dans la chambre, puisqu'il est très difficile d'avoir une chambre seule aujourd'hui, à moins que vous ayez la monnaie pour cela, vous vous retrouvez avec un camarade de chambre généralement, puisqu'on respecte le principe de la mixité, de la parité. La parité. Vous savez ce qui est énervant pour beaucoup de patients qui souffrent dans les chambres d'hôpitaux ? C'est les visites des bien portants. Je vous assure. Quand vous n'êtes pas bien, il y a quelqu'un qui arrive. Ça va avec ça ? Sa mine un peu circonspecte, qui vous apporte des bonbons, des chocolats que vous ne pouvez pas manger d'ailleurs. Et puis qui va rester là à vous parler, mais vous n'avez pas envie de parler. Celui qui va vous aider, c'est celui qui est à côté. Et quand vous alliez dire, mais qu'est-ce que j'ai mal à la jambe, il va dire, punaise, c'est vrai. Mais lui, il vous aide vraiment. Je ne dis pas que l'autre ne nous aide pas, j'exagère un peu. Mais le soutien, il procède essentiellement de la participation. Et quand nous avons dans ce texte un Dieu qui vient s'incarner dans toutes ses épines et ses ronces, dont on peut imaginer qu'elles sont le symbole d'une humanité déchue, il vient nous faire du bien aussi. Parce qu'il nous indique qu'après nous avoir invités à l'humilité et nous avoir donné sa puissance, il va venir souffrir avec nous. Et vous avez aussi l'image du Christ en filigrane. Le temps passe. Vous savez que l'arbre est un symbole de l'homme dans la Bible. On connaît tous le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, etc. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison, dans le feuillage ne se flétrit point. Vous avez aussi la théologie des deux arbres dans le récit de la Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui indiquerait un certain type d'humanité, d'homme, et l'arbre de la vie, ou de vie, qui indiquerait un type christique d'humanité, non seulement le Christ, mais des enfants du Christ, ce que nous, nous devenons lorsque nous nous greffons à Christ, lorsque nous acceptons par la foi le Christ. Eh bien, lorsque Dieu décide de venir parler à Moïse dans un buisson, il indique une humanité et il préfigure l'incarnation du Christ. Il y aurait beaucoup à dire, mais bon, passons. Et passons à ce quatrième signe, le signe de la main lépreuse. C'est intéressant ça. J'ai essayé de jouer cette scène. Mets ta main sur ton sein. Enfin, pour moi, ça veut dire ça. Hein ? Il la retire, elle est lépreuse. Remets-la. Retire, elle est saine. C'est comme ça que ça se transmet, la lèpre ? Pas du tout. Hein. C'est par contact. Autrement dit, s'il n'y a pas de lépreux dans l'entourage, vous risquez rien. Mais là, comment va-t-il, Moïse, attraper la lèpre en plongeant sa main dans son sein, dans son fort intérieur ? Ça me rappelle une image que je n'avais pas pensé, mais pourquoi pas. Vous savez, il y a 10-20 ans de cela, on faisait des émissions sur ces médecins philippins qui opéraient sans anesthésie, qui rentraient les mains des fois dans le corps. Ça m'avait impressionné. Mais quelque part, c'est un peu ça. Va au fond de toi, au plus profond de toi, au centre du centre de ton humanité. Qu'est-ce que tu vas en retirer ? De la lèpre, symbole du péché. Voilà ce que tu es. Par contre, si tu m'écoutes, remets ta main. Je pourrai, moi, agir au plus profond de cette humanité. Je pourrai, moi, te guérir de cette lèpre ontologique, de cette maladie existentielle qui fait que tu es ce bois à cause duquel j'ai dû passer par une incarnation douloureuse. Je crois qu'il y a de la place maintenant pour une prise de conscience. Et nous pensons à ce texte du Nouveau Testament. Quand le Consolateur vous aura été donné, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Je crois que dans la vie, on ne peut rien faire sans honnêteté. Et être honnête, c'est d'abord être honnête avec soi. Être honnête avec soi, c'est reconnaître. Reconnaître ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, ce n'est pas beau puisque c'est lépreux. Parfois, nous n'aimons pas envisager, pour ne pas dire dévisager, cette réalité, cette vérité. Nous voulons porter un costume qui n'est pas le nôtre, plus beau, plus propre, plus luxueux, plus riche. Nous voulons être des personnages que nous ne sommes pas. Et il suffit des événements de notre vie, des circonstances de notre vie pour que celles-ci nous ramènent à ce que nous sommes. Et je crois que tant que nous resterons dans ces faux-semblants, dans ces ignorances, nous ne pourrons pas marcher sur ce chemin. Pour y aller franco, il faut reprendre les paroles de ce cantique. Tel que je suis, prends-moi. Et ce que je suis, c'est pécheur. Je dois, si je pousse un peu plus loin le bouchon, reconnaître qu'il y a au plus profond de moi une damnation, une condamnation, et nous pensons à Paul lorsque j'utilise ces mots, qui nous contraint à faire ce que nous ne voulons pas faire. Et malgré 10, 15, 20 ans de christianisme derrière nous, parfois plus pour certains, nous retombons dans les mêmes ornières. Peut-être qu'il faudrait reconnaître, admettre et accepter qu'il ne peut en être autrement. Et que si quelque chose peut changer, ça ne procédera certainement pas de nous, mais de celui que nous écoutons lorsqu'il nous dit « remets la main ». Et moi, je vais agir. Je crois que c'est une expression extraordinaire de la grâce. Cette grâce, elle agit. Qu'est-ce que c'est que la grâce ? C'est un concept chrétien, biblique. Mais c'est tout simplement le Saint-Esprit dans le cœur de l'individu. Et lorsque vous avez cette puissance, pour peu que vous la laissiez agir, et nous avons dit comment, nous sommes en train de décliner un chemin, elle agit. Elle doit produire du fruit. Et c'est à elle de le faire, pas à nous. Et c'est là la difficulté. c'est que nous avons bien du mal avec le fait de déposer les armes. Qu'est-ce que nous tenons, même à nos péchés? Nous voulons tout garder. C'est normal. Qu'est-ce que la chute? Si ce n'est l'expression d'un fondamental de base, celui de l'égoïsme. Et le propre de l'égoïsme, c'est de ramener tout à soi. Nous sommes ainsi faits. Lâcher, tout déposer aux pieds du Christ, nous est compliqué, pour ne pas dire impossible. Et c'est pourtant, avec cette histoire de lèpre et de main, ce que Dieu nous invite à pratiquer. Regarde ce qu'il y a au fond de toi. Admets qu'il y a ça au fond de toi. Et que tu ne peux rien faire par tes propres moyens. L'eunuque, premier ministre de je ne sais trop quelle reine, est venu voir Philippe. Dès lors que nous acceptons cette irréductible impossibilité, damnation, malédiction, je crois que nous donnons à Dieu le pouvoir d'agir. C'est la grâce en action, le Saint-Esprit qui fait ce qu'il a à faire. On passera des autres signes, on arrivera au dernier, d'emblée, et pour les autres, on refera une prédication. Ce chemin que nous sommes en train de délimiter, quelle est sa finalité? Nous l'avons déjà plus ou moins indiqué. C'est tout simplement permettre à Israël d'arriver au mont Sinaï et de vivre avec Dieu un temps de culte extraordinaire. Dieu veut qu'avec les principes partiellement vus ce matin et sur lesquels nous reviendrons bientôt, nous puissions trouver le moyen de ne pas manquer ce rendez-vous. Et je crois que notre Église a raison de focaliser son attention sur le retour de Jésus et de le penser non seulement individuellement, mais collectivement. C'est l'affaire d'une Église, c'est l'affaire d'un peuple, c'est ensemble que nous y arriverons. Mais attention, comment se vit ce rendez-vous? Quand nous pensons au royaume de Dieu, nous attendons le retour de Jésus-Christ et nous nous disons que tout va être beau, tout va être extraordinaire, parfait, et nous avons raison. C'est ça notre espérance. Est-ce que je pourrais dire que nous allons, dès lors que nous allons rencontrer Jésus-Christ, entrer dans le monde de l'amour? Vous êtes d'accord avec moi? Le royaume de Dieu sera un royaume d'amour. De Dieu, d'amour, des créatures de Dieu. Mais nous sommes encore une fois dans la logique du buisson ardent et de son extension, son objectif, du Sinaï. Dieu conduit tout un peuple par l'unique force de sa grâce et non pas par une loi. Pour l'inviter à un temps de rencontre où il lui transmet quoi? Sa loi, qui est une loi d'amour, quand Jésus la résumera, aime ton Dieu et aime ton prochain. C'est ça finalement, le message du buisson ardent. Nous avons un Dieu qui est prêt à réaliser bien des choses pour nous inviter à vivre quand le temps sera venu dans le royaume de l'amour. C'est aussi simple que cela. Ce Dieu est tellement bon qu'il nous permet de comprendre par des signes, des enseignements, comment nous pouvons articuler dès aujourd'hui une relation avec lui pour ne pas manquer ce temps du rendez-vous. Ce temps est proche. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on dit que le temps est proche. Et je ne me situe pas là que dans une histoire adventiste. Déjà Paul était convaincu que de son vivant, il verrait le Christ revenir. Mais Plus je dis ça, plus je me rapproche de la vérité contenue dans mon affirmation. Chaque jour qui passe est un jour de moins. Le retour du Christ est donc chaque jour plus proche. À nous de voir le Dieu qui est le nôtre, de le comprendre, de le lire, de l'interpréter par ce trésor extraordinaire qu'il nous a donné, les Écritures, afin de pouvoir vivre tout simplement aujourd'hui, bien cramponné sur ce chemin dont nous venons d'indiquer la finalité. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen.